Actu SF, les podcasts.
Eh bien, bienvenue à tous pour cette nouvelle table ronde aux Utopiales sur le projet Mélissa vers une vie autonome dans l'espace. Donc on va poser une partie de la question du corps humain, de l'être humain, de la vie peut-être dans l'espace, ou de la maintien de la vie dans l'espace. Alors pour ça, nous avons deux invités. Alors à ma droite immédiate, Didier Schmitt, qui est spécialiste en immunologie et médecin. Il a été responsable des expériences scientifiques à bord de la Station spatiale internationale. Il est désormais détaché au service d'action extérieure de l'Union européenne, où il s'occupe de la diplomatie économique dans le domaine spatial, mais aussi de l'angle politique de l'exploration spatiale. Et il a fait une expérience tout à fait intéressante durant l'été austral 2016-2017, c'est-à-dire durant l'hiver pour nous, en tout cas sous nos latitudes. Il a participé à un raid de ravitaillement à la base antarctique de Concordia, qui est la station franco-italienne située dans l'Antarctique, à peu près un peu plus de 1000 km à l'intérieur des terres antarctiques. Et à ma droite, nous avons Christophe Lasseur, qui est ingénieur et chercheur à l'Agence spatiale européenne, au département Life Support and Physical Sciences Instrumentation, en bon français. Et il y dirige un programme qui s'appelle MELISSA, qui est le Micro Ecological Life Support System Alternative, et qui est en est à, d'après si je comprends bien, sa 28e année de fonctionnement. Je ne sais pas si Christophe est là depuis 28 ans sur le projet. En tout cas, ce projet continue à être étudié, travaillé, imaginé et mis en place par l'Agence spatiale européenne depuis 28 ans. Et ce projet vise à réaliser un système autonome pour la vie humaine lors des missions spatiales à long terme. Alors on imagine évidemment les missions martiennes, mais peut-être les futures bases lunaires, bases orbitales lunaires plutôt que bases orbitales terrestres. Et puis il faut produire pour ça ce qu'il faut pour un humain, de l'eau essentiellement, de l'eau, de l'oxygène, de la nourriture et peut-être bien d'autres choses. Donc on a nos deux invités pour une heure. On va faire comme d'habitude une petite discussion entre tous les trois pendant une quarantaine de minutes. Et puis les questions de la salle évidemment pour que vous puissiez vous leur poser vos questions directement. Alors avant d'aller dans l'espace, on va d'abord commencer par cette expédition, par ce raid quand même. C'est tout à fait étonnant. Dans les grands explorateurs, enfin dans ce qui reste de la grande exploration, de l'exploration vraiment spectaculaire au-delà de l'espace, des astronautes, il y a aussi ceux qui vont dans l'Antarctique. Et vous, Didier Schmitt, vous avez pu faire ce raid en Antarctique. Alors c'est dans des conditions extrêmes, des froids extrêmes, des vents extrêmes. C'est pendant l'été austral. C'est quand même, il fait jour. Donc c'est pas si terrible que ça pour des conditions australes. Mais ça reste des conditions extrêmes. Alors, comment ça s'organise? Comment ça se passe? C'est différent de l'espace, évidemment. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous en dire du point de vue, déjà, des difficultés qu'on rencontre alors qu'on est encore sur Terre?
Merci. Bonjour à tous et à toutes. L'Antarctique, d'abord, il faut y aller. Donc avant de faire l'expédition sur place, il faut déjà se rendre sur les abords. Donc pour cela, l'Institut Polaire Français a une base qui est une base côtière depuis tout le début des années 50, qui est donc habitée de façon permanente. Ça veut dire que tous les 12 mois, il y a une rotation des équipes. Il y a à peu près 25 personnes.
Les personnes, il reste 12 mois.
Oui, tout à fait.
Donc on vit un an là-bas. En fait, c'est la base du monde. C'est du
Mont d'Urville. En fait, c'est 14 mois puisque ils partent pas le jour où le.
C'est pas instantané.
Oui,
c'est
ça. Voilà. Donc pour cela, on part de Tasmanie et on part avec un brise-glace qui s'appelle l'Astrolabe. Et bon, déjà le trajet, moi qui ne suis pas marin, c'est déjà un effort. Pas évident. Voilà. Parce qu'il y a 6 jours et 6 nuits, le bateau n'a pas de quilles. Pour être brise-glace, on ne peut pas avoir de quilles. Donc ça veut dire que n'importe quelle vaguelette, ça fait bouger dans tous les sens. Et 48 heures avant le départ, il y avait 14 mètres de creux.
Ça secoue. Autrement dit, c'est peut-être plus compliqué de prendre le bateau pour aller, disons, du Chili à la base du Mont d'Urville. Enfin, je ne sais pas si ça part du Chili, mais enfin de la base continentale à la base du Mont d'Urville, que de prendre combien ça prend. Même Pesquet, qui a mis 2 jours pour y aller, c'était probablement moins...
Les 2 jours, c'est le temps d'avoir les orbites qui correspondent pour pouvoir docker. Mais bon, autrement, on y est en quelques heures.
Ouais. Et donc là, c'est beaucoup à la fois plus long, mais aussi finalement, d'une certaine façon, plus tonique. Enfin, le décollage d'une fusée, on doit sentir l'effet quand même. Il y a beaucoup de watts qui vous poussent aux fesses. Mais là, vous êtes secoué par une mer permanente, par une mer agitée permanente.
Oui, absolument. Donc ça, c'est la première difficulté. Ensuite, au bout de 6 jours, on arrive dans les premières glaces. Bon, ça c'est extraordinaire, hein, du point de vue expérience. On voit les premiers phoques de temps en temps, pas toujours. Et ensuite, ce qui nous est arrivé, c'est qu'on n'a pas pu aller plus loin. On était à 80 km de la base. Et là, le pack était beaucoup trop serré. La banquise, en fait, n'avait pas débâclé, comme on dit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de tempête pour casser et pour évacuer les morceaux de glace. Et là, il n'y a pas d'autre solution. Il y a des hélicoptères à bord. Et donc, on a dû et le personnel et le matériel ont dû être transportés par hélicoptère, ce qui n'est pas une mince affaire et qui est délicat aussi du point de vue pour les pilotes.
Et après, il y a la traversée elle-même. Une fois qu'on arrive à la base, on prend en main les chenilles, si je veux dire. Alors, c'est probablement des choses un peu volumineuses, parce que pour ravitailler la base, il faut qu'elle tienne toute la partie d'hiver, parce que là, pour le coup, on va parler de vie dans l'espace et de capacité d'autonomie de vie dans l'espace. Là, l'autonomie, il n'y en a pas. Enfin, l'autonomie sur les stocks, finalement, ce qui est apporté pendant ces raids de ravitaillement.
Absolument. Donc, la difficulté, effectivement, c'est qu'il faut tout amener. Donc, que ce soit pour la construction, pour la vie de tous les jours. Donc, il faut tout prévoir à 2 ans.
Il y a une liste de courses qui est longue, quoi.
Oui, et surtout,
il faut
prévoir 2 années consécutives au cas où, pendant une période, on ne peut pas faire le ravitaillement.
Donc, il faut vraiment avoir de l'avance. Ouais, ouais. Il faut vraiment avoir de l'avance. Et malgré tout, mais vous me disiez tout à l'heure, Christophe, qu'il y a du recyclage. Enfin, il se passe des choses, comme dans cette base. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à accumuler un énorme stock qui est long et compliqué à amener. Puis après, on jette les choses au fil de l'eau. De l'eau, justement, on pourrait se dire, tiens, il y a de l'eau, il y en a, enfin, sous forme solide. Mais il y a une part de recyclage, il y a une part de travail, de cette d'optimisation, finalement, des ressources.
Les gens qui sont à Concordia ont pour une volonté de faire de la recherche.
Alors, je te coupe, mais on n'est pas encore à Concordia, on est à Dumont-Durville.
On est à Dumont-Durville. Enfin,
c'est encore bien plus loin.
Et effectivement, par contre, ils doivent protéger l'environnement, puisque c'est souvent de la glaciométrie qu'ils font. Donc, ils étudient la glace. Et il est évidemment hors de question de polluer les glaces. Donc, on essaie de recycler au maximum tous les déchets, et principalement l'eau, puisque c'est les masses les plus importantes.
Sûr, ça veut dire que l'eau, ils ne prennent pas, on pourrait se dire naïvement, autour de la station. Bon, de toute façon, par le simple mouvement des chenilles, l'arrivée des raids, etc., tout ça, cette glace, ce n'est pas là qu'ils font leurs mesures. J'imagine qu'ils se déplacent un peu. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Mais ils pourraient la prendre, et puis c'est bon, quoi. On la nettoie un peu, je ne sais pas comment, et on boit cette eau-là, plutôt que de recycler, de faire tout cet effort de recyclage.
Oui, en fait, bon, donc une fois arrivé à Dumont-Durville, on prépare le raid. Comme on avait 4 jours de retard, j'ai eu que 2 jours
d'apprentissage de
la conduite d'un engin qui fait 22 tonnes avec 150 tonnes derrière. Et donc, effectivement, pendant ce trajet-là, on récupère l'eau sur place qu'on fait fondre pour la douche, etc. D'accord. Effectivement. L'eau qu'on consomme comme ça pour la nourriture, celle-là, on l'emmène parce qu'elle était un petit peu filtrée auparavant. Et après, il y a au minimum 11 jours de trajet, avec 12 heures par jour dans les véhicules, s'il n'y a pas de problème technique. Sachant qu'au bout de 150 km, personne ne peut vous récupérer. Donc au bout de 150 km, c'est l'autonomie absolue.
Absolue. Donc, c'est comme dans l'espace. D'une certaine façon, c'est comme dans l'espace. C'est-à-dire que là, si vraiment vous êtes dans les ennuis, ça va durer le temps que vous mettez pour les résoudre, si vous les résolvez. Donc il faut vraiment être en autonomie totale pour les pièces de rechange, la mécanique. Donc il faut avoir des compétences. Les gens qui conduisent, c'est pas juste des pilotes. Enfin, il faut qu'ils soient autre chose que pilotes. Un peu comme dans les astronautes qui n'ont pas qu'une compétence.
Oui, alors effectivement, les astronautes ont une formation extrêmement large, hein, puisque pour l'instant, ils sont encore à une distance tout à fait raisonnable. Je dirais 500 km, entre guillemets, on peut revenir très très rapidement. Mais on prépare les vols futurs, notamment les vols lunaires ou martiens. Et là, si on part vers Mars, c'est une mission de 3 ans. Donc là, effectivement, il faut avoir tout prévu. Et il y a un énorme travail système. On est obligé de regarder tous les aspects énergie, les aspects masse, les aspects communication et les aspects santé, bien sûr.
Bien sûr, oui, les aspects santé, évidemment. Et donc, quand on est à Concordia, on arrive finalement à Concordia, ça marche, c'est raide finalement, ça ravitaille. Alors là, ils stockent tout ça ils ont tout leur système de stockage et ils utilisent ça au fil de l'eau, si j'ose dire, pendant toute la période d'hivernage. Là, pour le coup, là, les conditions sont beaucoup plus pénibles.
Oui, l'accès est bien plus difficile que Dumont-Durville. Donc, il n'y a que 3 raids par an. Et déjà, le premier et le dernier sont extrêmement difficiles du point de vue thermique. Il y a eu des retours très, très difficiles à presque moins 60 degrés avec du blizzard. Et donc, sur place, effectivement, c'est pareil, il faut tout amener. essentiellement le fuel, la nourriture, enfin tout. Bon, c'est une base scientifique, hein, donc il y a beaucoup de matériel scientifique qui arrive. La seule autre façon d'arriver sur Concordia, qui est à 3200 mètres d'altitude, et c'est 3200 mètres de glace. C'est-à-dire que en dessous, le continent est à peu près zéro d'élévation. Donc on amène tout. La seule autre façon pour y aller, c'est un bimoteur qui vient tous les ans du Canada avec des pilotes expérimentés parce qu'on n'en trouve pas dans l'hémisphère sud. Voilà.
Et là, donc, c'est pour les humains, finalement, ça. Les humains, parce que le personnel scientifique, lui, vient en avion par ce petit bimoteur.
Oui, parce que le RAID, c'est très limité. On ne prend pas de scientifiques du tout.
D'accord.
C'est vraiment les experts du RAID, avec quelques exceptions, voilà, pour moi. Et bon, Christophe parlera beaucoup plus de ce qu'on a fait déjà il y a pas mal d'années sur le recyclage sur place.
Si vous voulez, vous avez un équipage qui peut être à peu près de 25 personnes et on consomme, hein, le citoyen européen moyen, qui est beaucoup plus contraint quand il est à Concordia, consomme une centaine de litres d'eau par jour.
Par jour.
Oui. Par jour. Donc effectivement,
c'est pour boire, mais pas que évidemment.
Bah, il y a tout l'hygiène, les machines à laver, les douches, lave-vaisselle et ainsi de suite, si vous voulez. Plus aussi toutes les activités techniques qui sont faites. Donc il est hors de question de pouvoir rejeter toute cette eau. D'abord parce qu'il y a un accord des bases antarctiques, ils n'ont pas le droit de rejeter. Hein. Donc effectivement, il faut recycler. Et on a travaillé sur ces systèmes de recyclage et on arrive à peu près à atteindre de l'ordre de 85% de recyclage sur les eaux grises aujourd'hui. Et il y a toute une partie, donc les 15% manquants, qui sont gelés. Hein, ça, c'est assez facile, les températures locales.
Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, mais il faut garder les
blocs. Et qui sont ramenés, ouais. Voilà.
Ils sont ramenés, absolument. Et le bloc est stocké dans un endroit approprié, après ramené.
Oui, c'est alors assez facile, vous les mettez dehors et vous les ramenez.
Voilà. Mais du coup, ils ne risquent pas de fondre pendant la nuit, si je veux dire, sûrement pas. Mais du coup, ces études qui ont été faites sur Concordia, elles ont, ou dans les bases polaires en général, elles ont clairement servi... après, à être spatialisé, ou ça s'est fait dans quel sens, en même temps?
Alors, si vous voulez, une des difficultés de la préparation des vols habités, que ce soit vers Mars, vers la Lune ou la station, c'est d'avoir la diversité des activités humaines, hein, puisqu'on va principalement se baser sur des déchets métaboliques, et les déchets métaboliques varient énormément en fonction de la personne, déjà de son génome, mais aussi de ses activités, de sa nourriture, et ainsi de suite. Et ça, c'est très très difficile de le simuler. Donc il faut pouvoir tester idéalement notre matériel, nos équipements de recyclage, dans toute cette diversité. Et ça, si vous n'avez pas un équipage, c'est presque impossible. Donc c'est pour ça que tout ce qu'on a comme mission analogue, type mission Concordia, est extrêmement intéressant pour nous. Le matériel n'est pas exactement le même, mais les technologies sont les mêmes. Et là, on a une diversité de tests qui nous permet ensuite d'être sûr qu'on va pouvoir les utiliser pour ramener nos astronautes vivants, parce que c'est quand même l'objectif numéro un.
Une chose aussi, une différence, il y a quand même, alors, il y a des tas de différences. À Concordia, l'air de rien, il y a quand même de l'air respirable en ouvrant la porte. Ça aide. Dans l'espace, pas. Mais à l'inverse, à Concordia, il y a de la gravité. Donc si on manipule de l'eau, des liquides, des machins, ça tombe tout seul au fond, si j'ose dire. Et les systèmes de gestion, d'évacuation, d'hydrodynamique, de liquide, etc., se passent en gravité, alors qu'en impesanteur, il y a une adaptation, il faut modifier éventuellement. Alors, on y viendra en particulier pour la pousse des plantes, mais pour l'eau et même pour le manipuler en général les liquides, c'est assez différent en impesanteur.
Ouais. Tout dépend du degré de recyclage que vous voulez avoir. Si vous voulez avoir des degrés de recyclage importants, on parle aujourd'hui de 80-90%, des choses comme ça, vous êtes obligé d'avoir des systèmes multiphasiques. Hein. Vous n'allez pas pouvoir être en liquide tout le temps ou en gaz tout le temps. Donc vous allez avoir des liquides, des gaz et des solides. Et effectivement, en microgravité, vous n'avez pas la facilité de cette gravité, de cette séparation naturelle. Donc vous êtes obligé de tenir compte de ces difficultés. Et c'est effectivement un des challenges principaux, parce que n'importe quelle micro-vibration va modifier votre système. Les systèmes à membrane ont cet avantage. Ils ne recyclent pas, si vous voulez, mais ils sont monophasiques, pour simplifier.
À membrane, ça veut dire que le liquide passe à travers une membrane.
Oui.
Il est sale, disons, dans son état où on ne veut pas l'avoir. Et il passe à travers... Et de l'autre côté,
voilà,
je caricature un peu, mais non, de l'autre côté, c'est bonnard. Quoi. Si on peut
pour
boire,
simplifier,
on peut...
c'est des tamis de tailles différentes. Ouais. Vous commencez par des gros trous, puis vous faites des trous de plus en plus petits. Et puis à la fin, vous avez une eau potable.
Une eau potable,
voilà.
D'accord. C'est juste... Mais il faut la pousser. Enfin, cette eau, elle passe pas spontanément.
Effectivement, c'est l'inconvénient de ce genre de technologie, c'est le coût énergétique. Ouais. Et à Concordia, c'est un vrai souci, puisque contrairement au spatial, où on a quand même en général une énergie assez bonne, au moins pendant les phases de transit, Concordia, ben, ils ont 6 mois de nuit, si vous voulez. Donc là, ils marchent au diesel.
Il n'y a pas de panneau solaire à Concordia.
Pas de panneau solaire.
Il pourrait y en avoir, mais ils ne marchent pas pendant 6 mois. Quoi.
Oui, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que, à Concordia, la météo est relativement clémente, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est l'endroit le plus sec au monde. plus que le désert d'Atacama.
Bah, vu qu'il fait froid,
il n'y a que, la neige, 20 mm de précipitation par an.
20 mm.
Et c'est balayé assez rapidement. Ouais. Donc effectivement, il n'y a pas de soleil du tout. On ne voit pas le soleil pendant 100 jours. Ça veut dire que bon, pendant 6 mois, effectivement, il n'est pas très haut. Mais même si on a du soleil permanent, par exemple pendant l'été, bon, ça ferait un apport énergétique effectivement avec des panneaux solaires complémentaires. Mmh. Mais vu le froid qu'il fait, c'est pas évident du tout. Et vous disiez bon, on ouvre la porte, on a de l'air. C'est vrai.
Mais l'air froid.
Mais on est à l'équivalent de 3800 mètres d'altitude hein, du point de vue pression atmosphérique. Ouais. Donc l'hypoxie. Quand on monte un peu vite les escaliers, on comprend très vite que la deuxième fois, on y va plus doucement.
Ouais. D'accord. Donc on a de l'air, mais voilà. On tire la longueur.
Et du point de vue éolien, c'est pareil, c'est le même problème. Il n'y a quasiment pas de vent, ce qui est bien pour travailler dehors. Mais parce que tout simplement, on est vraiment sur un dôme immense, qui fait plusieurs milliers de kilomètres. Et les vents adiabatiques, donc qui peuvent atteindre 300 km/h, ils seront en bas.
Ils sont en bas.
Puisque l'air froid, qui a, le record est à moins de moins 84 degrés. Donc l'air froid descend de plus en plus vite. Et c'est à Dumont-d'Urville, sur la côte.
Là, on prend
les 250 à 300 km/h. Ouais.
D'accord. Donc du coup, il y a eu d'autres tentatives, parce que l'Antarctique, c'est une base scientifique. Il y a eu des tests de recyclage, des expériences de recyclage pour vérifier, pour améliorer tout ça, mettre ça en place et le spatialiser éventuellement. Mais il y a eu d'autres tests qui ne sont pas en Antarctique. Là, je m'adresse peut-être plutôt vers Christophe. Mettons plutôt vers Christophe. Il y a eu cette tentative biosphère 2 de faire cette fois-ci un écosystème clos, alors pas en système antarctique, pas en système compliqué, mais avec l'idée de fermer intégralement la chose. Donc l'Antarctique c'est compliqué, mais on amène et on recycle ce qu'on peut. Là c'est vraiment on ferme tout, donc il faut que ça soit 100% recyclable, enfin pas 90%
dans l'Arizona.
Oui, dans l'Arizona il fait chaud comme dans l'Arizona, oui, donc du coup c'est pas facile, l'eau elle s'évapore là pour le coup, le gelé elle s'évapore.
Alors il fait très chaud, ouais. Mais il fait aussi très froid la nuit, hein. Donc effectivement, il y a deux grands projets qui existent. Il y a le projet russe, le projet BIOS, qui est un projet souterrain, qui se situe en Sibérie, à Krasnoïarsk, et le projet Biosphère 2, dont beaucoup de gens ont parlé, qui lui est plutôt sur une approche extrêmement holistique. Hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'objectif de Biosphère 2, c'était de mettre sous un énorme dôme un certain nombre de micro-écosystèmes terrestres, et puis d'espérer un équilibre. Alors, c'est une approche qui est quand même extrêmement empirique et extrêmement difficile à répéter. Donc, on sait, ça a été un échec au niveau système de support vie. Au niveau compréhension des écosystèmes, il y a eu des choses qui sont intéressantes, mais au niveau support vie, avec le risque et la sécurité dont on a besoin pour les astronautes, c'est un échec.
C'est un échec. Ouais. Là, ils savaient qu'ils pouvaient ouvrir la porte, quoi. Si les gars, ils veulent aller à la pizzeria du coin, si vraiment ils sont en train de se taper sur la gueule, enfin, je sais pas, on a entendu comme il y avait aussi des problèmes au-delà des problèmes purement techniques de support vie, comme vous dites. Il y a eu aussi des problèmes humains. Enfin, ça, c'est propre à Biosphère 2. Dans l'Antarctique, je pense qu'il doit y avoir aussi des astuces. Enfin, il faut réfléchir à la façon dont on organise les équipes, et évidemment dans l'espace. Donc là, on sait qu'on peut encore ouvrir la porte. On est encore dans la facilité, même si il y a toujours cette possibilité-là. On ne mourra pas bêtement à l'intérieur, quoi, disons. Alors que dans l'espace, encore, ça sera différent.
Oui, bon, la différence, effectivement, elle est assez évidente. Pour Biosphère, c'est vrai que si ça n'allait pas du tout, ben, on pouvait sortir. Quoi. Oui. C'était pas vraiment un problème.
Même si l'objectif est de rester 2 ans.
Évidemment.
Il devait rester deux ans. C'est une mission scientifique.
Oui,
il y avait l'idée vraiment de rester vraiment fermé. Donc, il fallait tenir. Ouais. Mais ils avaient des pertes de dioxygène. Ils avaient le CO2 qui s'accumulait. Donc il y avait
c'est
aussi
l'oxygène qui a manqué en premier. Hein, à cause de l'océan. L'océan s'est acidifié, si vous voulez. Et de ce fait, ils ont eu des chutes en oxygène importantes. Et là, effectivement, il a fallu sortir.
Comment se fait ce lien ? Il s'est acidifié parce qu'il a l'océan. L'eau absorbe du CO2. Voilà, elle capte du CO2. Les plantes et l'eau, mais au lobe, absorbent du CO2. Ouais. Et après, en s'acidifiant, alors, il y a eu comme conséquence sur le dioxygène, comment ça s'est retrouvé avoir.
Un des fournisseurs importants, c'était les microalgues.
Ah.
Et à partir du moment où vos microalgues se retrouvent dans un pH qui est trop acide, vous avez chute d'efficacité. Et puis là, vous n'avez plus d'oxygène. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont été obligés d'ouvrir.
Et donc c'est un système divergent, du coup. C'est-à-dire que plus il y a de CO2, plus il va s'en absorber dans l'océan, qui lui-même va produire moins de dioxygène, et vous vous retrouvez avec un déséquilibre qui va s'amplifier.
Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut parler un peu de Mélissa, effectivement, on a une approche complètement différente. On a vraiment une approche d'ingénieur où on a coupé cet écosystème en micro-morceaux, si vous voulez, et après, on essaie de réassembler les briques. Contrairement à ce qui a été fait à Biosphère 2, où en fin de compte, on a mis tout sous un dôme en espérant que ça s'auto-équilibre.
Ça se mette tout seul en marche.
L'approche est intéressante. La difficulté, c'est si vous voulez la reproduire dans l'espace, vous allez être dans des conditions différentes. et vous ne pouvez pas reproduire directement les mêmes conditions. Donc la connaissance acquise pour le spatial est extrêmement limitée.
Ah oui, donc il n'y a pas eu vraiment... Ça a été intéressant comme expérience, évidemment, mais il n'y a pas eu de retombées vraiment, vraiment utiles. Parce que, en fait, les approches étaient très différentes. Entre cette approche holistique, globale, dont vous parliez, et là, l'approche plus ingénieure, où on découpe en petits morceaux, on fait jouer tous les petits morceaux, puis on met tout le monde ensemble pour que ça se passe au mieux en gérant chaque partie. Quoi.
De toute façon, Biosphère 2 n'a jamais été un projet NASA. Hein. C'est un projet privé, indépendant, où effectivement, toutes les contraintes du spatial n'ont pas été tenues en compte. Si vous voulez. C'était vraiment plutôt une activité sol.
Oui, vous vouliez ajouter quelque chose.
Oui, bon, juste pour rebondir sur l'aspect humain, que ce soit dans Biosphère ou dans d'autres simulations, le fait de savoir qu'on peut partir, qu'on peut sortir, c'est déjà important. Oui. Moi, j'ai fait partie d'une simulation à Moscou sur une simulation de mission spatiale. C'est très, très différent de savoir que si vraiment il y a un souci technique ou humain sérieux, bon, on ouvre le sas et puis c'est terminé, quoi. Donc ça, c'est très, très différent de l'Antarctique. Une fois que le dernier
on peut pas sortir.
Bateau ah oui, part, là, c'est terminé.
C'est bon, quoi, c'est ça, ouais.
À Concordia, l'hiver, bon, on peut se promener dehors, mais à moins 80, on reste pas longtemps. Ouais. Donc, il n'y a pas de solution. Il faut que ça,
oui,
faut que
ça
fonctionne.
Il y a un grave problème à Concordia. Ils sont
voilà. Et Concordia, c'est 12 personnes, donc c'est encore plus restreint. Ouais. Si vous avez 25 personnes sur la base, comme sur la base du Mont-Durville, ou plus d'une centaine sur la base américaine... Bon, si vous n'avez pas envie de voir quelqu'un, c'est pas très grave. Il y a de la place et puis on peut interfacer avec quelqu'un d'autre. 12, c'est beaucoup plus difficile d'éviter quelqu'un.
Finalement, c'est ça ce qu'on voit avec ces expériences-là, avec ces situations-là. C'est qu'évidemment, il faut nourrir les humains pour que l'organisme survive, mais c'est largement pas suffisant. C'est une condition nécessaire pour que la mission se poursuive, mais pas suffisante. Si les gens s'étripent, si j'ose dire, enfin, en allant dans le cas le plus horrible, ça se finit mal. Et donc, du coup, il y a vraiment... c'est compliqué. Vous êtes un élément important, la survie de l'organisme humain dans un milieu compliqué, dans le milieu spatial.
Ça va, vous ne pouvez pas décorréler l'un de l'autre. Hein. On le sait très bien qu'au niveau micro-organisme, vous aviez un présentateur un peu plus tôt, si vous parlez du microbiote intestinal, en fonction du stress et ainsi de suite... La qualité des déchets ou la qualité de ce que vous allez avoir besoin au niveau apport métabolique va être différente. Donc vous ne pouvez pas décorréler la partie psychologique de la partie physiologique. Et ça, c'est une des difficultés, parce qu'effectivement, il y a un stress extrêmement important. On sait très bien aujourd'hui que la perception des aliments que les astronautes choisissent au sol avant de partir, quand ils sont en microgravité, ils ont une perception différente.
C'est plus les mêmes. C'est-à-dire quoi, c'est une question de goût qu'ils ressentent ou même d'envie de les manger, tout simplement. Les gens disent au sol, ça a l'air très appétissant, c'est génial, j'en veux plein. Ils arrivent dans l'espace et ils disent non, finalement, ce truc-là, ça me plaît moins.
La vraie raison, Didier vous l'expliquera mieux que moi, si vous êtes en microgravité, vous avez un rééquilibrage des fluides dans le corps. Mmh. Hein, parce qu'aujourd'hui, au sol, les liquides
tombent. Voilà.
Mais si vous regardez les astronautes, on voit qu'ils ont en général une grosse tête. Bon, en général, ça se corrige quand ils redescendent. Mais pour certains... Par contre...
Pas de nom.
Par contre, effectivement... À cause de ces fluides qui sont extrêmement importants, ils ont une langue qui est un petit peu supérieure en taille, et donc la perception sucré-salé est différente.
Ah, d'accord.
Voilà. Donc des aliments qu'ils ont choisis eux-mêmes, parfois ils sont déçus là-haut.
J'anticipe un peu.
D'œdème permanent du visage et de tout ce qu'il y a au niveau oropharyngé.
J'anticipe un peu sur ce dont je voulais parler après, mais on parle puisqu'on parle des aspects psychologiques, je saute directement sur ce passage. Il y a aussi le fait d'avoir si on fait pousser des salades dans la station spatiale ou dans l'espace, qu'on les mange, d'abord ça peut faire plaisir, mais on les voit, on voit du verre, on voit pas. On n'est pas dans un environnement purement, disons, métallique, purement technique, où chaque gramme a sa fonction technique. Et les salades, elles ont leur fonction alimentaire. Mais on les voit et ça peut donner. Est-ce que ça peut participer, ça, à l'équilibre psychologique ? Même une salade, même un petit machin vert.
Alors, il faut scientifiquement, il n'y a pas d'évidence. Puisqu'il faudrait réussir à nourrir les astronautes avec une grande quantité de salades, et il faudrait des statistiques sur un grand nombre d'astronautes qu'on n'a pas. Mais effectivement, il semble qu'il y ait un intérêt et un peu de détente à la présence de micro-organismes, évidemment de salades, de blé, et ça semble contribuer au bien-être de l'astronaute. Mais pour l'instant, ça reste encore à démontrer.
D'accord. Oui, alors pour revenir à la simulation à laquelle j'ai fait partie donc à Moscou, au centre des problèmes médico-biologiques de Moscou, il y avait déjà un équipage qui était présent, qui avait déjà été présent pendant 4 mois. Donc ils avaient une expérience pour faire pousser de l'oignon. L'oignon, c'est très important dans la nourriture, en tout cas à l'époque, ça fait 20 ans presque maintenant, dans la culture russe.
C'est bon les oignons.
Donc La première chose qu'ils ont faite pour quand je suis arrivé, comme signe de bienvenue, ils m'ont offert un oignon, un petit oignon. Ils n'en avaient pas beaucoup. Hein. Ah oui. Et donc c'est vraiment, c'est symbolique. Mmh. Et effectivement, ils regardaient ça de, pas comme de la nourriture. Quand ils en mangeaient, ben, il y en avait un de moins, donc c'est déjà un petit peu
c'est
difficile.
C'est une fraction appréciable de mais... le stock d'oignons et qui, était voilà. offert, qui vous était voilà. offert. Ouais.
Donc quelque chose de frais, de voir pousser quelque chose, c'est, pour eux, c'était quand même important. Surtout au bout de 4 mois déjà. Bah, il faut... Et ils avaient fait 4 mois de plus.
Oui.
Il faut savoir que les astronautes aujourd'hui mangent presque pas de produits frais. Mmh. Hein, ils mangent des boîtes de conserve et des produits lyophilisés.
C'est lyophilisé, bien sûr.
Alors, bon, un café lyophilisé, ça va, mais un steak lyophilisé, c'est moins intéressant. Des fraises lyophilisées, c'est encore moins intéressant. Mmh. Ils ont de la nourriture fraîche que lorsqu'il y a un cargo qui arrive. Et là, effectivement, en général, ils organisent un petit événement.
Un gueuleton, quoi, c'est
oui,
ça.
Oui, tout à fait. Mmh. Parce qu'ils sont extrêmement heureux, ça, c'est clair. Et on, quand on participe au débriefing, quand ils reviennent de la station... Souvent, quand on leur pose la question, ils disent bah, « si vous pouviez améliorer la nourriture, ce serait sympa ».
Oui, c'est un point important, social, de plaisir interne, de vie psychologique interne, et puis simplement de survie dans l'organisme. C'est pas juste, on pourrait pas imaginer, il y a des films, les pastilles de soleil vert, enfin, vous voyez, des trucs où on pourrait se manger des pastilles et ça va bien, ça donnerait tout ce qu'il faut, ça ne fonctionnera pas pour d'autres raisons que purement, disons, de fonctionnement de l'organisme. Ça ne fonctionnera pas pour des raisons psychologiques, pour des raisons... autre que
pour les
métaboliques.
Aujourd'hui, déjà, on ne saurait pas non plus avoir une nourriture totalement lyophilisée pour une mission de 3 ans. Hein. Ça, c'est clair. On ne sait pas faire ça aujourd'hui.
On ne sait pas la garder, c'est-à-dire avoir le stock qu'il faut. Si avoir le stock, mais la garder en condition.
La qualité ne sera pas maintenue pour une durée de 3 ans. On ne sait pas faire aujourd'hui ça. Non. Donc, on aura déjà une première difficulté là. Mais effectivement, après, il y a tout l'aspect psychologique.
Sur Concordia, donc Concordia est une base franco-italienne. Tout au début, il y avait une sérieuse bataille pour savoir si le cuisiniste serait français ou italien. Mais c'était sérieux. Hein,
ouais. Ah oui, je peux imaginer.
Et que la plupart du temps, en fait, il est italien.
Bon, ça va, c'est pas...
Donc, non, mais c'est pour dire que la nourriture, c'est pas seulement qualitatif pour la santé, etc. L'aspect psychologique, c'est vraiment culturel aussi. Et ça, on l'emporte avec soi.
Tu peux mentionner qu'à Concordia, le cuisinier a été envoyé en Italie, c'est un cuisinier français, il a été envoyé en Italie parce qu'il ne savait pas faire les pâtes de la qualité que les contributeurs italiens souhaitaient.
Ah oui, donc c'est même sur la qualité des pâtes. Et pourtant, on a le point que les pâtes, on les prend, on les met dans l'eau bouillante, on attend ce qu'il faut, puis c'est marre, quoi. Non, en fait,
vous
comme d'habitude...
Vous ne fréquentez pas les Italiens.
Non, mais, si, bien sûr, j'ai bien compris qu'il y a des niveaux et qu'il faut avoir ce niveau. C'est-à-dire, il y a une exigence... y compris dans la pratique, c'est pas juste dans la qualité du recyclage, dans les objets techniques, dans la compétence technique des gens, il y a aussi dans cette compétence technique de fabrication d'un plat cuisiné, quoi.
On est quand même dans une boîte de conserve pendant très longtemps. Ça veut dire que il y a beaucoup de frustration, et donc la nourriture, si c'est une frustration supplémentaire, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait.
Et il y a les Mélissa d'abord. Est-ce que quand même tu peux nous en dire un peu plus sur Mélissa, sur comment ça fonctionne? Parce que j'ai lu que ça ressemble à un écosystème lacustre. Alors ça avait l'air très malin. Il y a des couches. Enfin, c'est un truc d'ingénieur évidemment, parce qu'à la fin quand on regarde le truc, c'est entre guillemets un tas de ferraille. Je veux dire, c'est pas un joli lac. C'est pas. Je fais volontairement de la provoque. Hein. Mais ça, c'est un objet technique, quoi. Disons, on sent qu'il y a du cerveau dedans. Mais comment ça se passe en pratique? Comment on appuie sur le bouton et ça marche, ou comment ça tourne?
La vraie raison, hein, c'est qu'aujourd'hui, si on met l'eau, la nourriture et l'oxygène nécessaires pour une mission de 3 ans dans la fusée décolle pas. On ne sait pas emmener ses masses.
C'est trop massif.
C'est trop lourd. Voilà. Alors ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'effectivement, on ne saurait pas maintenir la qualité de nutrition pour une mission de 3 ans. Donc, effectivement, on va essayer d'avoir un système le plus fermé possible en essayant de recycler tous les déchets. Mais là, vraiment, on est sur ce qu'on appelle un système de support vie, c'est vraiment maintenir l'équipage. Donc, on ne peut pas se tolérer aucune panne. Donc, effectivement, c'est extrêmement une approche d'ingénieur. Et on va regarder les plantes, comme on va regarder une membrane. Il va y avoir tout un travail de caractérisation, de modélisation, de système. Et on va connecter tous ces procédés. Hein. On va, en fin de compte, transformer tous les déchets pour pouvoir nourrir les plantes. Et c'est les plantes qui vont produire l'oxygène, la nourriture et l'eau. Hein. Parce que si on n'était pas capable de nourrir les plantes, autant emmener la nourriture, l'eau et l'oxygène directement. Voilà. Et ça, c'est effectivement une 45 à peu près d'équipes en Europe qui travaillent là-dessus depuis une trentaine d'années.
Mais ça veut dire, comme c'est un système qui a l'air très subtil dans son organisation, est-ce que, par exemple, dans une mission martienne qui emporterait quelque chose à la Mélissa, il y a quelqu'un qui est spécialement former, et quelques-uns peut-être, ou quelques-unes, au fonctionnement du Mélissa. C'est-à-dire que ça peut pas, ça tourne pas tout seul. C'est pas de temps en temps, on jette un œil, ça se passe bien, et on revient. Non, c'est une attention, c'est piloter une Ferrari. C'est vraiment du pilotage fin, quand même.
Bah, on ne sait pas encore aujourd'hui quelles seront les qualités ni les diplômes des astronautes qui iront vers Mars. Mais effectivement, dans les études qui ont été faites notamment par Didier il y a une dizaine d'années, on avait regardé spécifiquement les domaines dont il y avait besoin, et la médecine et les systèmes de support vie étaient cruciaux.
Au début, pour Concordia, quand on a démarré le système de recyclage, il fallait évidemment former quelqu'un, et ça demandait quand même pas mal de temps sur place de maintenance. Ce qu'il faut comprendre, c'est un cycle fermé. Ça veut dire que vous avez pas mal de systèmes, mais il suffit qu'il y en ait un qui fonctionne mal, et tout le reste va s'emballer.
D'accord. Donc il faut quand même quelqu'un qui ait une compréhension fine de tout ce qui se passe. Ça peut pas, ça peut se faire. C'est pas comme au téléphone. Tiens, enfin, il n'y a pas de, comment dire, de call center. Là, vous appelez, vous dites, il y a un problème, il y a un truc rouge là, je comprends pas bien. Qu'est-ce que je fais?
Ah bah, de toute façon, la communication Mars, c'est 40 minutes. Mmh. Hein, donc déjà.
Oui, l'aller-retour, parce que quand on est à Mars, c'est ça, 20 minutes lumière. Exactement. Voilà, donc il faut aller-retour 40 minutes.
Si vous dites tourner le bouton à gauche, pendant ce temps-là, il peut se passer quelque chose, quoi. Hein, 40 minutes après, tu essaies de les tourner, réparer, et ainsi de suite. Donc ça prend du temps quand même. Mmh.
Et j'avais entendu aussi parler du projet de la NASA, ça s'appelle Vegi, qui était là, ça a été médiatisé à un moment donné, parce qu'il y avait la première salade qui a poussé dans l'ISS. Et alors, curieusement, les gars, ils ont dû la regarder, mais ils ne l'ont pas mangée tout de suite, il a fallu qu'elle soit désinfectée, enfin, ça avait l'air compliqué. Et comment ça se compare à Mélissa? Les approches, comment vous pouvez les qualifier ou les comparer?
Alors, Vegi, hein, c'est Vegi, uniquement la partie salade, pour simplifier. Toute la partie recyclage n'est pas incluse dans ce projet.
D'accord.
C'est plutôt pour simplifier ce qu'on appelle aujourd'hui du vertical farming. Vous pouvez acheter un peu chez vous et vous avez une armoire où vous pouvez faire pousser une salade.
C'est comme les cultures hydroponiques, ça, les cultures au sol.
Absolument. Voilà,
c'est
absolument.
Ça. On se débrouille pour faire pousser quelque chose dans un bain nourricier, de sorte qu'il n'y ait pas besoin d'avoir tout l'attirail de terre, de tout le bazar, de tracteurs, et dans un petit coin. Parce que j'ai vu, Vegi, c'est une toute petite boîte, en fait.
Oui, aussi, voilà.
Et donc, on fait un milieu artificiel pour faire une salade.
Absolument. Mais ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est justement ce que vous avez mentionné au début, c'est les aspects biphasiques. Parce qu'il va falloir apporter de l'eau, de la nourriture à la plante, et là, vous avez un risque de contamination microbio. Donc, il ne faut pas faire pousser des micro-organismes pathogènes pour l'équipage. Donc, la partie racinaire, où vous allez passer de l'eau vers les racines, de façon à ce que la plante puisse se développer, il faut extrêmement la maîtriser. Et Vegi, c'est plutôt ça aujourd'hui. C'est vraiment comment bien maîtriser la partie racinaire.
Oui, c'est quand on fait pousser du vivant des salades, on fait pousser du vivant, des bactéries et tout un tas de trucs qui pourraient poser des soucis. Donc il faut faire un vivant, il faut faire une pousse différentielle, on fait pousser ce qu'on veut. Ou alors il faut gérer proprement les choses dont on veut s'épargner la croissance.
Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, une plante, c'est déjà un micro-écosystème. Hein. Vous avez, au niveau des racines, vous avez un certain nombre de bactéries et de champignons qui vont permettre à la plante de se développer. Une plante totalement stérile, ça serait une vraie difficulté. On serait obligé de l'inoculer avec des bactéries connues, ce qu'on fait d'ailleurs, pour éviter les pathogènes.
Ah. Les plantes, les arbres, comme la salade, si elles n'ont pas de bactéries au niveau des racines, elles meurent. Mm. C'est comme nous, sans les milliards de micro-organismes qu'on a dans les systèmes digestifs, on ne sait pas faire, on ne sait pas absorber.
Donc il faut qu'elles soient là, mais qu'elles ne deviennent pas dominantes d'une certaine façon, enfin, qu'elles ne perturbent pas après l'équipage et l'équilibre général de la station.
Voilà, parce que, en fin de compte, dans un véhicule spatial, les risques sont énormes, parce que vous êtes dans un volume extrêmement petit. Donc vous avez des risques microbiologiques, vous avez des risques physiques, mais vous avez aussi des risques chimiques. Si la plante se met à produire de l'éthylène, par exemple, en grande quantité, ça va être un risque pour l'astronaute. Si vous cultivez au niveau des racines un pathogène qui va se disperser dans toute la station, ça va être un risque aussi. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui les Américains n'ont pas mangé les salades produites dans Vegi, parce qu'ils veulent être sûrs de la qualité microbiologique avant de les consommer.
D'accord, ça c'est curieux parce qu'habituellement une salade, on la prend, on la lave, on la mange. Enfin, je dis sur Terre, dans les conditions tranquilles, quoi. Et là on se disait, oulala, cette salade, elle a l'air... D'accord, ça résulte d'une expérience, donc il faut l'étudier en détail, mais... Ils n'ont pas dit, tiens, je prends une feuille. Il n'y a personne qui a dit, tiens, discrètement, je prends une feuille et je goûte pour voir l'aspect qu'elle a. En fait, ce n'est pas une question de goût, c'est une question de
microbiologie. Je ne serais pas surpris que les Russes aient déjà mangé la salade.
Ils ont déjà fait la salade. Avant, les Russes sont moins...
Non, mais avant Vegi, il y a eu une expérience russe qui s'appelait Lada, avec Svet avant, où ils ont déjà fait pousser une salade dans une boîte de chaussures. D'ailleurs, vous voyez des photos. Et vous voyez la salade qui sort de la boîte de chaussures. Et là, je pense que, connaissant mes collègues russes, ils ont...
Dans la boîte de chaussures, ça veut dire quoi? Ils avaient mis de la terre dedans? Enfin, ils avaient... Non, c'était une...
Non, c'était hydroponique aussi, mais en volume, ça ressemble à une boîte de chaussures, si vous voulez.
D'accord, je comprends.
Christophe mentionnait l'éthylène. Effectivement, les plantes produisent de l'éthylène, c'est une hormone pour elles. Donc, en système fermé,
ça s'accumule.
Ouais. Une salade dans le jardin, bon, bah, si elle
ça va, il y a l'air, il y a le vent, grave, exactement. Hein.
Donc, ouais, voilà. Donc il faut s'imaginer que c'est un système complètement fermé. Donc ça veut dire que tout ce qui est créé doit, à un moment donné, repartir dans un cycle quelque part, sinon ça s'accumule.
Sinon ça s'accumule, exactement. Et du coup, c'est pas Mélissa, mais vous avez vu sur le champ marge, j'imagine. Et le gars, là, avec ses patates dans le sol martien, enfin, on peut en dire plein de choses. Alors, ça, on en est loin encore d'être capable de réutiliser un sol préexistant, enfin même pas un sol, c'est du régolithe sur Mars, c'est même pas un sol, il n'y a pas de microbien, il n'y a rien du tout, quoi. C'est complètement...
Il y a plusieurs difficultés. La première, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas travailler sur du sol, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui se passe dans le sol. C'est extrêmement hétérogène, on ne peut pas mettre de capteurs, on ne va pas savoir ce qui se passe. On a parlé des micro-organismes, ils vont se développer là, et on ne sera pas capable de savoir ce qui se passe. Donc au niveau risque, on ne peut pas se permettre. Donc on va vraiment être en hydroponie, hein, ou même en ce qu'on appelle en dryponie, mais on va pouvoir mesurer exactement ce qu'on donne à la plante.
Voilà, là, l'idée, c'est de pouvoir instrumenter, mesurer, et puis mettre ça à la bonne dose, enfin, avec le bon rythme, en optimisant finalement les ressources qu'on investit dans la plante.
Ça, c'est la première chose. Donc, aujourd'hui, pas de sol parce qu'on ne maîtrise pas. Et la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, le sol martien contient un certain nombre de toxiques qui vont s'accumuler dans la plante, par définition, la plante va sucer. Et là, la biomasse va devenir non comestible.
D'accord. Donc là, évidemment, c'est...
Voilà.
C'est
donc aujourd'hui, alors on comprend très bien dans le film qu'il n'a pas d'autres ressources, donc il faut qu'il se débrouille avec le sol martien. Hein. Mais ce n'est pas l'approche qu'on a dans Médicin.
D'accord.
Hollywood fait des raccourcis, comme d'habitude.
Bien sûr. Donc, non, mais on est d'accord. Mais du coup, c'est toujours intéressant, parce que comme ce film, il a quand même une certaine pertinence, il a des aspects tout à fait... crédibles, enfin qui peuvent passer pour crédibles. Alors des fois, on ne sait pas, c'est pas toujours facile de juger est-ce que c'est crédible là, ou enfin pas crédible à ce niveau-là, ou un peu. Donc il y a évidemment des... Bon, c'est certain que vivre seul sur Mars, ce sont le gars, à mon avis, il est cuit, mais bon, ça c'est un autre problème. Tenter le coup. De toute façon, c'est ça où il meurt instantanément, donc autant tenter le coup.
L'intérêt fondamental quand on discute dans la rue, hein, c'est que les gens se sont rendus compte que si vous êtes sur Mars, vous ne survivez pas. Il n'y a rien. Et ça, déjà, c'est un premier succès.
Donc Elon Musk là, qui vous envoie sur Mars pour vous sauver ou pour sauver la Terre, ça va pas être facile, quoi.
Ah, pour l'instant,
au-delà d'y aller déjà, qui est un problème non négligeable, puisqu'il faut déjà survivre au voyage et survivre notamment en termes de nourriture, il y a après être sur place et faire tourner la boutique, quoi. Il n'y a pas d'épicerie.
Bah, pour l'instant, il a envoyé une voiture, donc ça, ouais, c'est pas très
compliqué. Il est même pas sur Mars, il est en orbite solaire. Ouais,
hein, tout à fait.
Ouais, d'accord.
Non, il y a beaucoup de... Je trouve pas le terme qui soit politiquement correct. Non, si vous voulez, il y a beaucoup de poudre aux yeux dans toutes ces annonces-là. Ça fait beaucoup de tort à la communauté scientifique et technique et des choses que fait Christophe sur les 30 prochaines années, de dire qu'en 2-3 ans, on va aller sur Mars et après, bon, pourquoi faire?
Il y a le pourquoi faire, mais avant même...
On va se promener en scaphandre, mais il faut tout emmener.
Ouais, exactement.
Donc, bon, tout ça, c'est pas aussi simple que ça.
Mais quand même, ces projets-là... Alors, on voit qu'il y a un lien très important. Ça permet de comprendre les écosystèmes. Bon, Biosphère 2, d'une certaine façon, on a pu comprendre comment ça ne marchait pas. Ce que vous faites avec Mélissa, les tentatives, ce qui se passe à Concorde, etc., ça permet d'avoir des choses pour se mettre en milieu extrême. Une petite quantité de personnes, là, du coup, les quelques personnes à Concordia dans les bases polaires, dans l'espace. Mais du coup, ça aussi, est-ce que ça aurait aussi des retombées aussi plus large public? Ça veut dire cette capacité de recyclage à l'extrême de l'eau. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Alors, à Nantes, allez, on y va. Vas-y, on fait un méga, alors pas juste Mélissa, mais juste sur l'eau. Toutes les eaux grises de Nantes, mettons Nantes, mais c'est pour le moment un peu gros. Est-ce qu'on peut les recycler avec cette qualité, cette efficacité qu'on a à Concordia ou dans l'ISS?
Aujourd'hui, un projet comme Mélissa a survécu 30 ans parce que les applications terrestres. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe ne pourrait pas investir, si vous voulez, 30 ans de recherche sans un applicatif rapide. Donc effectivement, aujourd'hui, on a pas mal de collaborations avec l'industrie du terrestre. Et il y a un certain nombre de stations d'épuration en Europe qui utilisent une technologie Mélissa. De la même façon qu'à Saint-Nazaire, hein, juste à côté de l'hôtel de Monsieur Hulot, vous avez AlgoSolis, une grosse plateforme sur les microalgues, qui est issue de la recherche qui a été faite par l'Université de Nantes et de Clermont-Ferrand. Pour le projet Mélissa.
D'accord.
Donc là, c'est vraiment...
D'accord, il y a des raisons très directes et qui auront des applications qui ne sont pas encore généralisées au sens où on les trouve partout, mais qui commencent déjà à trouver quelque chose de concret à des échelles qui ne sont pas disons, 10 personnes ou 5 personnes dans l'espace, ou 10 personnes ou 12 personnes à Concordia.
Non, mais on a par exemple une université au Maroc, à Kenitra, qui utilise le même système de traitement d'eau. Donc là, c'est quand même 1200 étudiants. Il y a Freshenet, pour ne pas donner de nom, qui utilise nos capteurs dans la production, pour l'optimisation des productions de vin pétillant. Il y a des brasseries en Belgique qui sont des forts consommateurs d'eau, si vous voulez. Hein, donc là, qui utilisent aussi des technologies issues du projet.
D'accord, donc ça a des retombées évidemment très directes sur les façons, parce qu'on parle beaucoup de béton économie circulaire. Alors là, c'est pas tout à fait dans l'économie, mais c'est dans le recyclage de matériaux, d'optimisation écologique, etc. Et donc ça va avoir, ça a déjà des applications, et ça s'est appelé à en avoir d'autres dans les 10, 20, je ne sais pas, 30 ans à venir.
Ouais. Les contraintes du spatial sont énormes. Donc ça vous oblige à avoir une réflexion qui est extrêmement poussée. Et de ce fait, vous générez de la recherche qui a des utilisations dans des cas plus simples. Alors, donc toute cette théorie des systèmes circulaires, comment avoir des boucles de carbone, des boucles de nitrogène et ainsi de suite, bon, effectivement, ça a un intérêt pour l'économie circulaire que vous avez mentionné. Comment on organise une ville dans le futur pour réussir à avoir des pourcentages de recyclage importants, réduire les énergies et ainsi de suite.
D'accord. Bah, Mélissa, c'est simple, hein, c'est un système, c'est une biosphère, entre guillemets, dans tous ses composants. Et au lieu de l'avoir pour 8 milliards de personnes, on l'a pour 8 personnes.
8 personnes.
Donc ça veut dire qu'il faut comprendre, analyser et reproduire.
Il faut changer d'échelle, ouais. Il y a un changement d'échelle. En passant de 8 à 8 milliards, évidemment, il y a un changement d'échelle qui n'est pas négligeable. Sans parler des contraintes, bon, qui sont un peu de nature différente selon les régions du globe et avec l'espace, évidemment. On va prendre quand même quelques questions de la salle, parce que je suis sûr que vous avez plein de questions. Comme d'habitude, avec ce bon public, ce beau public des Utopiales. Donc, j'arrive, j'avoue que je ne vois pas grand-chose. Ah, il y a déjà une main qui se lève. Alors, les micros arrivent. Comme d'habitude, ici, celui qui a le micro a le pouvoir. Pour l'instant, c'est moi, mais ça va changer.
Merci, bonjour. Vous évoquiez le fait que sur la base Concordia où vous étiez, il y avait 12 personnes et que ce n'était pas facile à gérer, par exemple, par rapport à une base où il y a 100 personnes. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre de personnes qu'il faudrait envoyer dans la boîte de conserve pour que, socialement, ça tienne la route? Voilà, merci.
Bah, le mieux, c'est d'envoyer que des robots. Ça tiendrait bien la route. Bon, Concordia, l'été, donc les 3 mois d'été, entre guillemets, c'est jusqu'à 60 personnes parce qu'il y a plein de chercheurs, il y a beaucoup de logistique, etc. Mais effectivement, pendant 9 mois, ils sont que 12, 13. Donc ça, c'est la base la plus petite et la plus difficile et la plus lointaine de ce point de vue-là. Donc là, l'expérience qu'on a, elle est très intéressante puisqu'on a du recul depuis 2005 maintenant. En plus des expériences de recyclage, on fait aussi des expériences biomédicales, y compris dans le domaine de la psychologie, qui sont financées par l'Agence spatiale européenne, qui finance une personne tous les ans, donc un médecin qui passe 13 mois là-bas. Donc on a pas mal de recul. Alors le nombre, le problème est un peu différent. On ne va pas définir un nombre du point de vue sociologique, psychologique, etc. et ensuite l'adapter. C'est plutôt l'inverse. Ça veut dire que les agences spatiales et tous ceux qui font financer les programmes vont dire ben voilà, il y a de la place pour 5 et puis vous vous débrouillez. Ce sera plutôt comme ça. Et après la problématique, c'est sur ces 5 ou 6 personnes, comment vous faites pour qu'ils soient compatibles? La problématique étant, si c'est une mission multinationale, ce qu'on souhaite, c'est que vous allez avoir un Chinois, un Russe, un Américain, un Européen, un Africain, etc. Ça ne va pas être évident parce qu'il y a toujours des pressions pour avoir telle personne, telle autre, etc. Et à la fin, c'est malheureusement, je dirais, c'est pas le bon sens qui va prendre le dessus pour savoir quelles sont les compatibilités. À la fin, bon, on enverra un petit peu des gens qui ne sont pas forcément compatibles. Et d'ailleurs, au début de l'aventure spatiale, on se posait la question s'il fallait des pilotes de chasse ou des sous-mariniers. Dans le mieux fait de prendre des sous-mariniers du point de vue psychologique. Parce que, bon, pilote de chasse est plutôt extraverti par rapport à un sous-marinier qui sait vivre dans un sous-marin à 100 personnes pendant 3 mois, et cela de façon répétée.
Dans les sous-marins, s'il y a un problème, évidemment, on ne peut pas ouvrir la porte non plus.
Oui, mais le sous-marin a un énorme avantage, c'est qu'il ne manque pas d'eau.
Oui, c'est vrai, il peut se refroidir, il peut boire.
Enfin, en général, il ne manque pas d'énergie non plus, puisque souvent...
Si c'est des sous-marins à 3 mois sous l'eau, c'est des sous-marins nucléaires.
Voilà, et en plus, souvent, ils ont des problèmes de poids, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez lourds, contrairement à nous. Donc vous voyez, les problématiques sont quand même assez différentes.
Sont assez différentes. Alors, est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Merci.
Oui, bonjour. Donc moi, je voulais savoir, bon, du coup, j'ai bien compris qu'on ne peut pas avoir un recyclage à 100%, c'est techniquement impossible. Mais du coup, là, j'ai cru croire que vous parliez d'un recyclage à 85%, mais jusqu'où on peut aller, enfin, jusqu'où on pourrait aller, je sais pas, enfin, 95, 99, et pour quelle autonomie, c'est-à-dire pour combien de temps on pourrait tenir uniquement sur le recyclage du projet Mélissa ?
Alors, c'est un petit peu difficile de répondre comme ça. Les chiffres dont je vous ai donné aux alentours de 85%, ça, c'est les chiffres obtenus sur l'eau à la base de Concordia. Donc là, on a beaucoup de recul et on est assez confiant sur l'eau, effectivement, sur des pourcentages extrêmement importants. Sur l'eau, sur l'oxygène, CO2, on a des pourcentages aujourd'hui qui se situent presque aux alentours de 95%, 100%. Donc là, on est très bien aussi.
Le CO2, c'est récupérer le CO2 pour purifier l'atmosphère de son CO2 quasiment 100%. Quoi.
Oui. Là, ça, on n'a pas trop de difficultés là-dessus pour l'instant. En oubliant la partie multiphasique en microgravité. Mais sur le procédé lui-même, l'efficacité est bonne. La difficulté vient sur la nourriture. Parce que sur la nourriture, vous avez besoin d'une diversité de molécules énorme, d'accord ? Et vous partez d'une diversité de molécules des déchets énorme. Donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, il faudrait presque une technologie pour chaque molécule, ce qui n'est absolument pas possible, d'accord ? L'autre difficulté, et ça on attend que les médecins viennent nous le dire, quel est le régime alimentaire idéal, si vous voulez, pour l'astronaute dans ce type de mission ? On ne l'a pas non plus aujourd'hui.
Le cassoulet.
Cassoulet, c'est bien ça. Ça me paraît curieux, mais pourquoi pas ?
Donc je sais pas répondre sur un pourcentage sur la nourriture. Je pense que le premier chiffre sur lequel on va se baser, ça va être aux alentours de 40%. Parce que si vous bouclez les boucles en 40% nourriture, vous bouclez aussi l'eau et le CO2 oxygène. Et puis après, on va aller progressivement. Les simulations mathématiques théoriques disent aux alentours de 70%. 70 à 80% de masse totale. Puis après, vous allez avoir les problèmes sur l'énergie, les capacités des fusées, les temps équipage, les prises de risque, et tout ça va être tenu en compte pour faire des calculs, si vous voulez.
Parce qu'une optimisation à tenir compte, parce qu'un recyclage plus poussé, a priori, pourquoi pas, mais il y a au moins une quantité qui est importante, c'est combien d'énergie vous pouvez payer pour faire ça. Si vous avez la capacité à relever les atomes les uns après les autres, à la pince à épiler, à les réassembler pour faire ce qu'il faut, tout ira bien. Mais cette capacité-là, elle va coûter une blinde en énergie.
C'est l'approche qu'avaient contenté les Japonais. Hein, donc tout au nord de Honshu, l'île principale du Japon, il y a plus ou moins l'équivalent de la Hague, vous savez, ce qui est à côté de Cherbourg. Et là, il y a une grosse centrale nucléaire et ils n'avaient pas de problème d'énergie. Donc ils sont partis des déchets, ils les ont scindés au niveau élémentaire et puis ils ont reconstruit. Mais le coût énergétique est colossal, donc cette approche, c'est juste pas possible.
Si on a l'énergie, ça va, mais dans l'espace, c'est compliqué. Et à Concordia aussi.
Alors, ça dépend à quelle échéance, puisque les Russes viennent de tester un réacteur nucléaire pour être spatialisé il y a 3 jours. Donc, à moyenne échéance, disons une trentaine d'années, on pourrait avoir un réacteur nucléothermique. Et dans ce cas, l'énergie ne serait plus un problème pour certains types de missions.
Là, c'est des réacteurs comme ceux des sous-marins. C'est-à-dire que les réacteurs nucléaires d'une usine, d'une centrale nucléaire basique, c'est 1 gigawatt, disons. Là, c'est comme les sous-marins, ils sont plutôt entre 50 et 200 mégawatts. Donc, c'est cet ordre de grandeur-là qui sont...
Plus faible encore. Oui, on n'a pas besoin de...
50 mégawatts dans l'espace, on peut faire des choses après. Hein. On peut se pousser aussi, faire de la propulsion aussi avec ça.
Oui, non, mais c'est essentiellement pour la propulsion. Je ne dis pas que c'est pour aller mettre un LED quelque part. C'est essentiellement la propulsion, mais si on a ça, ça veut dire que pour le reste,
on peut aussi, on
ça
peut
veut dire qu'on peut faire du shielding actif, ça veut dire qu'on peut se protéger contre les radiations en créant un champ magnétique à haute énergie, etc. Donc ça va résoudre énormément de problèmes. Ça va éviter d'emmener un carburant phénoménal avec des fusées, des assemblées, les structures,
à l'énergie,
etc.
C'est le nerf de la guerre en physique, donc, en physique.
Ouais. Voilà. Ouais. Donc en principe, si les choses se passent comme certains le prévoient, d'ici une trentaine d'années, il y aura des solutions, pas seulement pour les missions aller-retour Mars, mais aussi sur place. Et aussi, évidemment, le même problème est sur place, le problème énergétique reste le même.
Quand on est une base lunaire ou une base martienne, il faut de toute façon de l'énergie pour faire fonctionner la boutique, hein, de toute façon, et éventuellement beaucoup. D'accord, ben c'est bien ça quoi. Une autre question.
Bonjour.
Bonjour.
Je me posais la question sur l'adaptation sur le très long terme en gravité nulle, sur le plan cardiovasculaire, en fait, sans rentrer dans des détails trop, trop médicaux, mais voilà, sur l'échelle des pressions, sur les éléments, sur les événements thrombotiques qui peuvent se produire. Enfin, est-ce que l'organisme humain peut vraiment survivre 3 ans en apesanteur sans qu'il y ait des modifications cardiovasculaires et des risques cardiovasculaires pour les astronautes?
Bon, la problématique cardiovasculaire doit être prise dans son ensemble. Il n'y a pas que ça comme problème, il y a la décalcification osseuse, il y a tout ce qui est neurosensoriel qui se désadapte, musculaire, etc. Donc pour le cardiovasculaire, les thromboses, ce n'est pas un problème. C'est des systèmes assez stables qui sont très peu influencés par l'abcès de gravité ou quasiment pas du tout. Aujourd'hui, ce qu'on fait déjà, c'est qu'il y a au minimum 2 heures de sport par jour dans la station spatiale pour qu'on puisse résister au retour, parce que le retour c'est plusieurs G, 3 G pendant une certaine phase du vol. Ça veut dire que votre organisme n'est plus adapté à avoir une pression assez importante dans le cerveau. Il y a 5 ou 6 mécanismes autonomes qui permettent d'avoir une pression artérielle dans le cerveau qui soit correcte. Tout à l'heure, quand je vais me lever, il y a plein de systèmes qui vont se mettre en place, qui vont dire bah tiens, il y a moins de pression, faut que je m'adapte.
Ça, c'est grand.
à cause de la gravité terrestre. Donc ça n'existe pas. Donc ces phénomènes, il faut les recréer. Donc on imagine aujourd'hui faire des centrifugeuses pour mettre les personnes donc qui font de la très longue durée, de les mettre dans des centrifugeuses et de recréer la gravité pendant 30 minutes par jour en faisant en plus de l'exercice physique. C'est pas juste se mettre dedans et dormir à une gravité à peu près de 1 G comme sur Terre. Ce qu'on ne sait pas, c'est que est-ce que ça ne va pas induire le mal de l'espace ? C'est-à-dire on est à 1G, tout d'un coup on passe en apesanteur. Il y a énormément d'astronautes qui ont un mal de l'espace assez sévère, et si on change tout le temps, ça va être un
Le mal
un
de l'espace,
souci.
Il se produit à la transition, c'est-à-dire en montant.
Oui, on s'adapte.
Voilà.
Oui,
mais oui. Ça prend un certain temps, on peut passer comme...
Ça prend plusieurs jours, en principe, oui, absolument. Donc ça, c'est effectivement un problème. Ensuite, le deuxième problème, ça, c'est pour la station spatiale et d'autres stations circumlunaires à venir, etc. Sur les missions martiennes, alors encore une fois, ça dépend. Si on a une propulsion chimique, ça veut dire que c'est une propulsion plus lente, ça veut dire qu'il faut 9 mois pour y aller. Si on est en nucléaire, ça peut, bon, 3-4 mois maximum, on peut y être. Donc cette phase-là, on sait à peu près la contrôler avec l'exercice physique, etc., pour que l'organisme soit assez résistant. Ensuite, tout dépend comment on va atterrir sur Mars. Si on freine par une aérocapture, on peut se prendre jusqu'à 6G. Donc ça va être un petit peu difficile. Donc admettons qu'on trouve les bonnes solutions pour atterrir sur Mars. Mais quasiment du jour au lendemain, il va falloir travailler. Et sur Mars, l'émission martienne, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit vous restez 40 jours, soit 500. Donc 40 jours, ça veut dire qu'il faut être efficace. Si on fait quelque chose sur place, il faut faire un maximum avec un scaphandre sur le dos.
Les personnes ont voyagé pendant, mettons, quelques mois. Alors avec un entraînement, peut-être ce qu'il faut pour minimiser les contraintes gravitationnelles qu'elles vont subir sur Mars, où la gravité, c'est quand même moins importante que la gravité terrestre. Mais enfin, quand même, elle est là. 0,38, c'est ça. Donc il faut y survivre. Et si on reste 40 jours, il faut être efficace tout de suite. Et oui, il ne faut pas s'écrouler sous son propre poids martien.
Avec
quoi.
80 kg de scaphandre, bon, avec 0,38, ça fait à peu près 50 kg, mais bon, il faut effectivement absolument optimiser ces phénomènes, parce que c'est le moindre heure de perdu ou journée de perdu dans ce genre de mission, c'est catastrophique.
Bien sûr. Bien sûr. Oui, donc on voit qu'aller sur Mars, c'est non trivial. Quoi. Enfin, il y a plein de problèmes à résoudre. Enfin, on le savait déjà, mais bon, là, ça ne s'arrange pas. Est-ce qu'il y a une autre question?
Oui, bonjour.
Ah, bonjour, monsieur.
Là, on en revient plus au recyclage. J'imagine qu'il faut que les astronautes soient en excellente santé, puisque s'il faut qu'ils se traitent, qu'il y ait des médicaments, ça rentre dans le cycle et ça peut polluer le cycle de recyclage.
Oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer le cycle sans ce qu'on appelle les produits exogènes, hein, qui peuvent être par exemple un antibiotique, un médicament quelconque, qui va rentrer dans la boucle. Donc dans le projet Mélissa, il y a une petite partie qui s'appelle Bellissima, où justement on regarde tout ce problème des éléments traces. Vous voyez bien que si vous voulez par exemple recycler vos déchets avec des micro-organismes, et que l'astronaute prend des antibiotiques à haute dose, vous allez retrouver quasiment 80% des agents dans les déchets humains, notamment dans les urines. Et ça, effectivement, si ce n'est pas prévu, bah, vous allez avoir un problème important. D'où aussi les synergies avec la problématique de traitement des urines en sortie des hôpitaux ou des choses comme ça, où vous avez des fortes doses pharmaceutiques.
Bah, évidemment. Ah oui, non, mais je réalise que oui, évidemment. Si on voulait recycler les eaux usées d'un hôpital, bah, il faut tenir compte de ça. Ah oui, bien sûr.
Mais même du point de vue physiologique, je veux dire, dans les urines des hommes, il y a de la testostérone et des androgènes, des métabolites. Chez les femmes, il y a des œstrogènes. Donc si vous mélangez tout ça, bon, c'est vrai qu'on va se rapprocher. Les hommes vont être moins virils et les femmes un peu plus. Mais bon, c'est un réel problème, même sans médicaments.
On le sait aujourd'hui, hein, dans l'écosystème terrestre, il y a une dérive. Il y a une dérive de féminisation, si je puis dire, hein, à cause notamment des produits pharmaceutiques. Donc ça, c'est relativement publié et connu aujourd'hui.
À l'échelle terrestre.
Absolument, oui.
Le CO2 dans l'atmosphère, les particules fines, enfin tout le bazar, et les dérives médicamenteuses. Enfin,
c'est principalement dans les systèmes aquatiques, oui. Mais il y a un gros programme financé par la Commission européenne, justement, pour comprendre ce genre de choses, hein, tout ça, avec tout ce qu'on appelle les endocrino-disrupteurs, hein, où là, effectivement, vous avez une évolution. Et comme aujourd'hui, c'est, je dirais, traité de façon... limité encore hein, dans le détail, puis c'est extrêmement difficile parce que vous avez toute la diversité des produits pharmaceutiques, c'est énorme. Mmh. Donc on ne peut pas avoir à chaque fois une technologie pour chaque station d'épuration, si vous voulez. Donc il y a une partie qui repart au niveau trace, mais qui a un impact d'accumulation.
D'accumulation. Voilà. Oui, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, dans un système fermé, la Terre c'est un grand système, mais qui est fermé, bah, tout ce qui n'est pas remis dans la boucle s'accumule. Exactement. La Terre est un système fermé, on le savait déjà, mais on va prendre une ultime question, alors.
Oui, bonjour. Je voulais savoir par rapport s'il y avait une réflexion qui avait été faite par rapport à la superficie nécessaire par habitant d'un endroit fermé. Est-ce qu'il y a un espace vital nécessaire qui se calcule en mètres carrés voilà.
Alors, la bonne réponse est donnez-moi le régime alimentaire que vous voulez avoir. Aujourd'hui, si vous voulez le faire sur des micro-algues, on sait à peu près le faire avec une centaine de litres, pour simplifier, hein, au moins sur l'oxygène. Si vous êtes sur un régime de plantes supérieures, blé, tomates, pommes de terre et ainsi de suite, au minimum, vous êtes aux alentours de 100 mètres carrés par personne, hein, ce qui est extrêmement élevé pour les performances qu'on a. Et si vous voulez aller sur un régime alimentaire extrêmement diversifié, vous pouvez monter à plus de 400 mètres carrés par personne. Et là, c'est juste pas jouable, quoi. Donc la bonne valeur, elle va être quelque part entre les deux, quoi.
400 mètres carrés par personne.
Oui,
c'est-à-dire que les stations orbitales de Gérard O'Neill, les années 70 et tout ça, c'était la bonne taille, des kilomètres de long, des kilomètres de diamètre. Bon, on est bien en deçà de ça actuellement, mais c'était des surfaces finalement raisonnables.
C'est basé sur un régime alimentaire terrestre.
Ouais.
Voilà. Et avec des performances de plantes telles qu'on les a aujourd'hui. Après, on va optimiser, mais on n'optimisera pas d'un facteur 100. Hein.
D'accord.
Après, on ne peut pas trop parler en mètres carrés, puisqu'on a un pesanteur. Donc, si on dépend de notre station...
mètres carrés sur le plafond, ça, ça compte.
Ça veut dire qu'on peut utiliser tous les volumes. Hein, que vous soyez la tête comme ça ou dans n'importe quel sens, vous pouvez utiliser, vous pouvez faire pousser une salade dans ce sens et dans l'autre sens, ça n'a aucune importance. Donc, on peut optimiser les volumes. Donc, ce n'est pas seulement une question de mètres carrés, évidemment. Avec Christophe, on travaille aussi sur une bande dessinée qu'on est en train de réaliser. Et puis on a dans un vaisseau spatial, on imagine un module entier qui fait à peu près 5 mètres de diamètre sur 10 mètres de long. Et si on optimise tout, on pourrait faire à peu près 70-80% de recyclage pour 6 personnes. Donc voilà, donc on peut quand même relativement compacter, mais c'est... Si vous considérez ça plus l'endroit où vont séjourner les 6 membres d'équipage, etc., ça fait quasiment le quart du vaisseau qui est dédié à la survie, uniquement à la survie des personnes.
Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, messieurs. C'était passionnant. J'espère que ça vous intéresse aussi. On va arrêter là cette table ronde pour passer à la suite des festivités. Merci à vous. Merci de votre présence.